Les grands débats du lundi, Philippe Bloch.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission qui donne envie d'entreprendre, organisée avec le magazine L'Entreprise. Comme chaque semaine, c'est un vrai plaisir de vous retrouver avec Guillaume Roquette, le directeur de la rédaction du magazine L'Entreprise, avec lequel nous allons ce matin découvrir comment créer un blog qui marche. Invité de notre grand débat, Mihai Crâneanu, je vais décidément avoir du mal, PDG et fondateur de clickdegloria.fr, le plus grand service de location de DVD par Internet en France. Henri Kaufmann, le président de Communidaire, une agence de marketing relationnel. Et puis, bien sûr, notre grand témoin entrepreneur de la semaine. Nous recevons aujourd'hui Loïc Lemeur, le DG Europe de Six Apart, éditeur de logiciels et de blogs. Au sommaire également de cette émission, Nicolas Sereau et Mehdi Benchekroun, les cofondateurs de Presse Purée, une toute nouvelle chaîne de restauration bio. Sans plus tarder, je vous propose de partir à la découverte de notre grand témoin, puisque vous le savez, chaque semaine, nous recevons un chef d'entreprise avec lequel nous revenons sur son parcours, ses succès, ses difficultés. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Loïc Lemeur, le DG Europe de Six Apart. Et avant que nous ne revenions sur les grandes étapes qui ont marqué sa vie professionnelle, Graziella Rodriguez, vous nous en dressez le portrait.
Et oui, Loïc Lemeur est un entrepreneur vorace. Alors qu'il termine à peine ses études à HEC, il crée en 1996 sa première entreprise, B2L, l'une des premières web agency française. Peugeot, Chanel, les trois Suisses, son portefeuille client s'étoffe rapidement. 3 ans plus tard, il revend son bébé au groupe de communication internationale BBDO. Entre-temps, il crée RapidSite.fr, le premier hébergeur de sites web à proposer aux PME une offre à bas coût. Même succès et au final, même scénario. Loïc Lemeur revend son affaire en décembre 99 à France Télécom. Un an plus tard, Tekora voit le jour et il réussit avec cette société le pari incroyable de lever 6 millions d'euros en pleine explosion de la bulle Internet. En 2002, il finit là aussi par céder cette entreprise. Et puis vient la tendance blog qu'il détecte avant tout le monde. Il lance ublog.com en 2003, un outil technologique qui est aussi un hébergeur. Pour élargir ses horizons, il fusionne sa structure avec l'américain Six Apart, ce qui fait dire dans le milieu qu'il a vendu sa boîte avant même de l'avoir créée. Bref, vous l'aurez compris, Loïc Lemeur est un entrepreneur boulimique. Il a réussi à allier ses deux motivations principales, être son propre patron et faire de sa passion pour le net son métier. Un aventurier qui se qualifie lui-même d'animal bizarre par rapport à ses anciens camarades d'HEC. Et comme ça ne lui suffit pas d'avoir créé 4 sociétés en moins de 10 ans, il investit également dans des entreprises naissantes pour soutenir les initiatives originelles. Ce caméléon a attrapé le virus du web et il n'est pas prêt d'en trouver le remède.
Merci beaucoup, Graziella. Loïc Lemeur, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pensez que vous seriez devenu un tel entrepreneur sans Internet ?
Je pense que ça aurait été moins rapide, ça c'est certain.
Oui.
C'est la rapidité du web qui fait en sorte que vous devez toujours être dans... Enfin, j'essaie toujours d'être dans la tendance de ce qui démarre, en fait. Mm-hmm. Et ça, c'est probablement le plus difficile. Le web va à toute vitesse.
C'est-à-dire si vous étiez sorti d'HEC vous êtes sorti en quoi, en 96 ?
96.
En 96, si vous étiez sorti en 86, au lieu d'être sorti en 96, vous auriez démarré comme tous les HEC dans la banque et la finance ?
Ça, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup de chance, en tout cas, d'avoir démarré en 96, puisque ça a coïncidé avec le début du web.
Oui, et puis une bonne ambiance. Une bonne ambiance en termes d'entrepreneuriat, si je puis dire.
Oui, une bonne période. C'est vrai que c'est cyclique, en tout cas dans le IT et dans le web. J'entends parler de deuxième bulle en ce moment, c'est pas du tout le cas. C'est juste, ce sont des cycles. Tous les 3-4 ans, il y a une phase d'expansion, une phase de décroissance.
Guillaume Roquette.
Oui, Graziella nous le disait, vous avez successivement surfé sur des tendances émergentes. Vous disiez à l'instant, il faut être dans la tendance de ce qui démarre. Alors, on vous voit dans le studio, vous n'avez pas d'antenne. En tout cas, elle se voit pas. Comment vous faites pour détecter avant les autres ce qui va marcher ?
Il n'a pas d'antenne, mais il a un appareil téléphonique, un téléphone avec lequel il prend des photos toutes les 5 secondes pour son blog, j'imagine, on en parlera tout à l'heure.
Je suis en train de bloguer en direct, oui. Non, j'ai pas d'antenne, je lis beaucoup le web, justement. Et je pense qu'il n'y a pas de secret, là, ce que je vais vous dire est totalement évident, mais j'essaie de participer à un maximum de conférences, y compris les organiser moi-même quand elles n'existent pas, et donc de rencontrer un grand nombre de personnes, d'aller à San Francisco tous les mois ou tous les 2-3 mois maximum, puisque les États-Unis sont en avance sur ce sujet-là, pour me remettre à jour. Mais surtout avec les blogs, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez lire depuis déjà 10 ans sur le web, mais maintenant c'est encore plus facile de lire ce qui se passe, ce que fait quelqu'un, ce qu'il y a de nouveau. Par exemple, vous avez une conférence qui s'appelle Blog On en ce moment, qui démarre aujourd'hui lundi à New York. Je n'y suis pas puisque je suis avec vous, mais je vais pouvoir lire tout ce qui s'y dit, puisqu'il y a 300-400 blogueurs qui vont écrire en temps réel ce qui s'y passe.
En temps réel, c'est-à-dire que vous-même, on va pas entamer tout de suite le débat sur le blog, mais on est déjà un petit peu dans notre débat de tout à l'heure. En temps réel, ça veut dire que vous le recevez comment? Vous le recevez sur votre PC au bureau, ces blogs? Vous les avez sur un quelconque outil portable actuellement?
On peut les lire sur le web, tout simplement. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle un agrégateur qui vous permet de les lire, de faire votre propre journal en quelque sorte, et de les lire régulièrement. Donc moi, j'ai une bonne quarantaine d'amis qui sont à cette conférence à New York, et je sais qui je vais lire. Et dans la mesure où il y a du Wi-Fi un peu partout dans la conférence, donc de l'internet mobile, pendant que les gens parlent, ils commencent déjà à écrire en temps réel ce qui se dit.
Donc on n'a pas besoin
d'attendre.
Et...
voilà, on n'a pas besoin d'attendre en fait des rapports ou de ce que la presse en dit. On l'a tout de suite.
Alors on va beaucoup parler du blog ce matin, mais on va avant quand même revenir sur votre parcours. J'aimerais revenir au tout début. C'est-à-dire vous sortez d'HEC. D'abord, est-ce que vous avez fait une option entrepreneuriale à HEC ou pas? Parce que l'option entrepreneur est connue.
Oui, j'ai fait une option, celle de Robert Papin, HEC entrepreneur.
Robert Papin, le fameux Robert Papin qui a généré de nombreux entrepreneurs que Guillaume Roquette connaît bien.
Absolument, qui vient d'obtenir un prix dans le Grand Prix d'entrepreneur pour l'ensemble de son œuvre. Le Grand Prix de l'esprit d'entreprise.
Absolument. Alors donc vous suivez le cours de Robert Papin et là vous avez déjà des projets ou pas quand vous êtes en étudiant?
Oui, j'étais obsédé par l'idée de... Mais mon père était commerçant et mon grand-père aussi. Et donc j'ai toujours vu mes parents créer, diriger et être autonome en fait, ne pas avoir de patron. Donc j'avais cette espèce de motivation de ne pas avoir de patron et je pense que je préférerais toujours être... Quoique j'ai un patron là, enfin, on en reparlera.
Mais on en reparlera effectivement.
On a tous un patron d'ailleurs, un actionnaire.
Le client ou l'actionnaire.
Mais ce que je veux dire, c'est une autonomie très très forte. Et ça, c'était une de mes grandes motivations. Donc oui, en troisième année, j'étais même en deuxième année déjà obsédé par l'idée de dire, il faut que je dirige moi-même ce que je fais, quitte à ce que ce soit tout petit, c'est pas grave. Et ensuite, la deuxième motivation, évidemment, c'était le web.
Et donc l'idée, la première idée, c'est-à-dire B2L, qui est une web agency, donc on est là en 96, c'est assez novateur, et elle démarre à peine en France. L'idée vous vient comment? Vous observez à l'époque, vous passez pas une fois par mois à San Francisco, comment vous vient cette première idée?
Sous la douche, évidemment.
Forcément.
Non, pas du tout.
En vous rasant le matin.
Pour moi, l'idée a aucune valeur. C'est-à-dire que malheureusement en France, beaucoup de gens passent leur vie à chercher l'idée du siècle, et l'idée n'existe pas.
Ah, c'est-à-dire?
Non, je pense que c'est une erreur, c'est un peu comme si vous voulez chercher la femme de votre vie ou votre prince charmant et qu'il est idéal, il est beau, riche, intelligent et fantastique. Il n'y a pas d'entreprise, c'est la même chose.
Guillaume veut intervenir sur la femme de sa vie.
Il y a une formule chinoise qui dit « L'imagination est la mère des idées, elle sait rarement élever ses filles.
» Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez, vous pouvez toujours rechercher l'idée du siècle et probablement ne jamais la trouver. Alors pour répondre à votre question, Philippe, l'idée est venue d'un stage. J'étais en stage chez Peugeot, pour être précis. Et le sujet, c'était comment aider trois concessionnaires Peugeot parisiens à mieux communiquer ensemble. Comme j'étais déjà complètement omnimulé par le web, je leur ai dit, vous devriez faire le premier site de vente de véhicules d'occasion sur Internet. En 96, c'était plutôt pas très commun. Et on a lancé Cyberoccasion.
C'est-à-dire
Peugeot.
Vous l'avez lancé en tant que
J'étais en stage.
Et vous avez créé le site pour eux?
En fait, à la fin du stage, ils ont trouvé l'idée tellement sympa. Paul Sevin, pour ne pas le citer.
Paul Sevin, directeur commercial France, oui.
Oui, a trouvé l'idée tellement sympa. Il m'a dit, écoute, fais-le maintenant. Et en fait, donc, j'ai pas eu d'idée. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Comment je fais ça? Je vais aller être recruté dans une entreprise avec Peugeot dans mes valises. Autant essayer de créer ma société. Et j'ai créé ma société sur le campus en troisième année, pendant mon stage, à la fin de mon stage, en le cachant de Robert Papin et de la direction de la HEC, parce que c'est plutôt pas...
Sachant que Paul Sevin est très impliqué aussi auprès de Papin, je crois qu'il était parti beaucoup à HEC Entrepreneur.
Oui,
c'était dur de vous cacher, j'entends par là.
Disons que le campus vous donne l'essentiel, c'est-à-dire pour démarrer, c'est-à-dire le réseau.
Ouais.
Si vous ne l'exploitez pas, eh bien, vous pouvez totalement avoir un parcours classique, mais vous pouvez aussi l'exploiter, comme je l'ai fait évidemment, de manière inconsciente. C'est-à-dire que je ne suis pas allé pleurer auprès de Paul Sevin, il faut que tu m'aides et deviens mon premier client pour être un entrepreneur. C'est plutôt par le fait qu'il avait envie de continuer ce projet-là, et moi aussi, j'ai créé cette entreprise. Ça vous aide beaucoup, évidemment.
Et pour autant, donc, il est devenu votre premier client historique de B2L.
Tout à fait.
Donc, vous avez terminé ce site de vente de voitures d'occasion pour Peugeot. Au sein de B2L comme premier
Peugeot
client.
Peugeot est devenu notre plus gros client et resté 3 ou 4 ans. Enfin, resté d'ailleurs et toujours client de ma société, en tout cas pendant que j'y étais. Et est devenu le plus gros client de la société, je crois. Ça a démarré avec un contrat de 20 ou 30 000 euros, qui était mon premier contrat. Je dormais avec la nuit. Mm-hmm. Et c'était plus d'un million d'euros par an de facturation. Après, on a fait un très très grand nombre de sites Peugeot.
Alors là, le e-commerce, on est en 96 encore, là, toujours. C'est la première année de B2L. Est-ce qu'il y a d'autres web agencies à l'époque ou est-ce qu'elles émergent à peine?
Oui, il y avait le studio Grolier, qui est devenu Club Internet. Il y a eu un lien avec Club Internet.
Tout à fait.
Et ensuite, il y avait aussi Imaginette de Patrick Robin. Qui était donc, on était 3 ou 4 comme ça.
Vous dites ça en souriant, pourquoi?
Oui, parce que je suis assez nostalgique, c'était sympa, on était 2 ou 3
des vrais pionniers.
Ou 4 agences, enfin vous voyez, il y avait très peu de concurrence, les gens nous regardaient bizarrement, et il s'agissait d'aller expliquer en 96 à des marques. On a fait la première bannière de pub, par exemple, avec Patrick Robin, ensemble. Moi j'avais le client et lui avait le site. C'était Opel de mémoire. Mm-hmm. Et ça, donc il y a une certaine nostalgie.
Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez été dans les premiers et en même temps, vous avez été l'un de ceux qui s'est développé le plus. Alors que dans tous les cours de stratégie, on dit, en général, les précurseurs ne vont jamais bien loin parce qu'ils essuient des plâtres à la place des autres. Et c'est la deuxième génération qui réussit le mieux. Alors heureusement, vous faites mentir cet adage. Pourquoi ?
Voir les gros qui bouffent les petits.
Ça, c'est vraiment difficile comme question parce que je pense qu'on reviendra peut-être sur la notion d'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise en 2005 ? Mais pour moi, elle doit être en permanente évolution, mais à un point avec la vitesse à laquelle le web évolue, elle doit changer, se transformer en permanence. Et donc je ne pense pas que j'étais le premier, j'essaie juste d'être en permanence adapté au marché. Or le marché bouge tout le temps, et donc comment vous faites ça ? Eh bien soit vous réinventez l'entreprise tout le temps, soit vous la cédez, vous passez à autre chose.
Alors, on va revenir effectivement sur la façon dont Loïc Lemaire n'a cessé de réinventer l'entreprise et un peu le marché de l'Internet. On se retrouve dans un instant pour découvrir la suite de son parcours.
Bonjour, je vous fais le plein ?
Oh non, on vient juste faire un petit tour pour voir.
On regarde.
Bien, vous ne prenez pas d'essence alors ?
Oh, bah, c'est-à-dire qu'on hésite encore un peu là.
Vu le prix ?
Ouais.
Bon. Je vous laisse réfléchir alors. Hein.
Voilà, oui, c'est mieux, on va réfléchir.
Voilà.
Parce que l'essence est devenue un produit de luxe, offrez-vous plutôt un TDI. Sur Golf et Golf Plus, le TDI 105 est au prix de l'essence et le pack climatique à 1€ sur la finition Trend, soit un avantage client cumulé de 2 500€. Condition de l'offre disponible chez les partenaires Volkswagen participants.
Embarquez dans le monde de l'America's Cup et adhérez au China Team Business Club. Partagez ces moments exceptionnels et bénéficiez des relations privilégiées du Business Club avec les chefs d'entreprise français désirant occuper le marché chinois. Renseignements au 01 41 34 23 67.
Chaque matin à 6h40 et le soir à 19h54, retrouvez Compétences, la chronique emploi de BFM. Quel que soit votre domaine d'activité, découvrez chaque jour de nouveaux postes à pourvoir avec MediaRH.com, le premier site d'emploi qui donne au quotidien la parole aux entreprises qui recrutent.
BFM, la radio de l'économie.
BFM 10h15, on fait un point sur les marchés avec vous, Grégoire Favet.
Et la Bourse de Paris, oui, démarre effectivement plutôt bien la semaine. Le CAC 40 est en progression de 0,4% ce matin du côté des devises. L'euro vaut à l'instant 1,2074. Revenons à présent sur le feuilleton Edges qui anime ces dernières semaines l'actualité économique. Maurice Lévy, patron de Publicis, annonce ce matin dans la tribune qu'il se retire de la course au rachat du groupe britannique de marketing. Il ne veut pas mettre sur la table plus de 140 pence par action. WPP reste donc seul en lice et discute actuellement avec un fonds d'investissement. Et puis Vincent Bolloré, de son côté, poursuit sa montée au capital. Il détient désormais près de 18% de participation dans Edges. Pour Jean-Claude Boulet, cofondateur de l'agence BDDP et président d'Harrison & Wolff, le patron d'Havas agit de concert avec WPP.
On peut imaginer que Bolloré se mette d'accord avec WPP pour racheter Edges, que WPP reprenne la partie études, ce qui diminuerait le coût d'acquisition, et puis qu'ensuite, on se retrouve avec une fusion, par exemple, des activités médias MPG et GIS, dans laquelle Havas, Bolloré pourrait être majoritaire et WPP minoritaire. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je ne vois pas Bolloré n'agissant pas de concert avec WPP sur cette opération. Mais il se parle souvent, ça je le sais parfaitement.
Jean-Claude Boulet, cofondateur de l'agence BDDP, président d'Harrison & Wolff, interrogé par Rose Claverie. 10h16 sur BFM, vous retrouvez maintenant la suite des grands débats du lundi et avec Philippe Bloch et ses invités.
Les grands débats du lundi, Philippe Bloch.
On poursuit la découverte du parcours de Loïc Lemaire. Loïc Lemaire, c'est un serial entrepreneur de l'Internet et nous en étions en fait à la création de sa première web agency qui a lieu en 96, sortie d'HEC, B2L, premier client Peugeot, et vous la revendez cette entreprise finalement assez vite à BBDO. Qu'est-ce qui a motivé cette envie déjà de partir vers d'autres aventures ?
J'ai joué à la pétanque avec Christophe Lambert dans le sud de la France.
Ah, ça Christophe, suffit avant de l'entreprise.
Christophe qui est aujourd'hui
patron de Publicis.
Patron de Publicis.
Qui écrit des bons bouquins.
Et oui, ça je... Mais donc j'étais pas très vieux, enfin je suis pas toujours, mais j'avais 26 ans, quelque chose comme ça, ou 27. Et on s'est retrouvé un peu par hasard chez Christophe Lambert dans le sud, on a joué à la pétanque. Et en fait, il y avait très peu de grands groupes comme CLM BBDO qui avaient des agences interactives, pour pas dire pas du tout.
Ouais. Il était lui-même chez CLM BBDO à l'époque ?
Il dirigeait CLM et BDO.
D'accord.
Et Christophe m'a invité à passer le voir le lundi d'après dans son bureau. Et je crois qu'un mois après, je faisais partie du groupe BBDO. Donc, c'est une des leçons, c'est que le business, ou plutôt ce qui se passe le plus important dans votre vie des affaires, se passe rarement dans les salles de réunion. C'est plutôt à côté que ça se passe.
Oui.
Mais c'était pas du tout une volonté de ma part. Beaucoup de gens disent, comme j'ai vendu 3 entreprises, ou 4, me disent mais tu crées pour vendre. En fait, pas du tout, ça se fait parce que je pense simplement que la situation évolue dans un sens où c'est mieux pour l'entreprise. Souvent c'est aussi mieux pour moi, mais c'est mieux pour l'entreprise. Pourquoi c'était mieux pour l'entreprise? Vous aviez une agence web où j'avais 10 ou 15 personnes qui s'appelait d'ailleurs, pour rigoler au début, Looping Communication SARL. J'ai changé de nom assez rapidement sur les conseils de Christophe d'ailleurs.
Ouais.
Et c'est devenu B2L. Et le fait de vous retrouver agence interactive du groupe BBDO, c'est autrement plus crédible quand vous allez voir des clients.
Sauf que Loïc Lemeur nous dit en début de cette émission, j'ai fait ça, j'ai entrepris pour ne jamais avoir de patron. Donc à ce moment-là, vous rentrez dans le groupe CLM BBDO et vous le quittez très vite parce qu'en fait, ce n'était pas votre truc.
Il était minoritaire, le groupe, au début.
Ouais.
Et j'avais fait en sorte qu'il y rentrait à hauteur de 25%. Et j'avais fait en sorte de garder mon autonomie. Effectivement, si je l'ai quitté au bout de non, quand même 2-3 ans. J'ai des cycles de 3 ans.
Vous avez tenu 3 ans.
Oui, vous me dites attention.
Non, je sais pas que vous êtes instable.
J'ai des cycles de 3 ans. Je le sais maintenant, je l'ai appris.
Ah oui.
C'est à peu près c'est mon cycle. Et au bout de 3 ans, j'ai l'impression que j'avais fait mon boulot. B2L avait une centaine de personnes, avait un chiffre d'affaires de 10 ou 15 millions d'euros si je me souviens bien, était devenu une petite entreprise, était intégré au groupe BBDO et c'était j'avais fait mon boulot de créateur. Le travail de développer cette entreprise-là par la suite n'est pas le même. Et sincèrement, je ne le dévalorise pas du tout. Il est très important, mais m'intéresse moins.
Mm-hmm. Alors là, vous avez un peu d'argent devant vous pour la première fois ou vous auriez pu vous arrêter un petit peu ou vous dites non, il faut vraiment que je continue à bosser tout de suite parce qu'il faut que je nourrisse ma famille?
Mais c'est pas ça. Je n'avais jamais travaillé pour nourrir ma famille. D'ailleurs, si je travaillais pour nourrir ma famille, ça serait vraiment par nécessité.
Loïc Lemeur, c'était une façon de vous demander qu'est-ce qui vous a donné envie de réentreprendre tout de suite après?
C'est maladif, pardon Philippe de pas être très bien réveillé. Non, j'ai voulu juste... D'abord, il y a tellement de choses qui se passent sur le web depuis 10 ans et toujours aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est encore mieux, mais on y reviendra parce qu'il y a encore moins d'entrepreneurs. Je sais pas ce qu'ils font, là, ils restent un peu cachés chez eux. Mais en 96, les opportunités qui arrivaient étaient vraiment très très importantes. Donc la deuxième que j'ai repérée, c'était une frustration en fait.
C'était même quoi, chose. Rapidside.fr, c'est
oui,
ça?
Oui, de l'hébergement de sites pour les PME.
D'accord.
Et là aussi, c'est
pourquoi
pas...
une frustration?
Une frustration parce qu'on avait, donc B2L c'était la haute couture,
oui.
C'était Chanel, c'était Peugeot, c'était de la communication de grandes marques haut de gamme. Et j'avais énormément d'appels de PME qui cherchaient des solutions.
Qui ne savaient pas faire un site, qui voyaient que c'était dans
oui,
l'air du temps.
Qui comment l'héberger. À l'époque vous aviez sur le marché France Télécom qui offrait des solutions à 400, 500, 600 euros par mois. Et donc nous avons lancé une solution de mémoire à 10 euros par mois ou 20 euros par mois qui s'appelait RapidSite.
Qui hébergeait uniquement, qui ne créait pas.
Alors c'était uniquement de l'hébergement, c'était un peu le site, l'hébergement de sites industrialisés. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre, pour faire très très simple, un seul serveur ou deux web sur une seule machine, on en mettait des centaines. Et donc on pouvait baisser les coûts, on était très rapidement le moins cher du marché,
ouais.
Et 10, 15, 20 000 clients en moins de 12 mois.
Du coup ça séduit pour le coup France Télécom.
Oui, alors ça, c'est pareil. En fait, c'est une histoire...
Vous jouez à la pétanque avec Denis, avec Michel Bon à l'époque.
Non, mais là, c'est encore pire. Là, je lis votre confrère du Figaro un week-end. Et ça faisait un an qu'on était tranquille sur ce marché de l'hébergement. On avait très, très peu ou pas du tout de concurrence. On appelle ça l'hébergement mutualisé. Et on avait une pub avec un château. Un château en Espagne de mémoire dans lequel on disait c'était assez cheap. Hein. Même si j'étais passé chez BBDO, c'était l'hébergement, c'est comme dans un château, c'est très très stable. Enfin bref, comme quoi la pub. Et ça marchait très très bien. Et j'ouvre le Figaro de magazine et je tombe sur un autre château, alors écossais celui-là, avec France Télécom qui se lançait, ça s'appelait Domicile, et qui me dit, j'étais terrorisé parce que j'avais un grand concurrent en face de moi
qui plagie
qui
votre
lance,
château.
Et qui en plus lance un château. Et là vous avez deux réactions possibles. La première, j'en connais beaucoup qui feraient ça, vous attaquez France Télécom, parce que quelle horreur, ils vous ont
plagié.
Et la deuxième, vous les invitez à déjeuner. Et donc moi j'ai contacté quelqu'un qui s'appelait et qui s'appelle toujours le pauvre Jean-Michel Carcelin, très très sympa, et qui avec lequel on a déjeuné. Je lui dis écoutez, quand même je vous félicite votre arrivée sur le marché, ça va le développer, mais vous aurez pu ne pas me piquer mon château. Est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Donc ils ont changé de pub.
Ils connaissaient votre château?
Ah oui, bien sûr.
Il l'avait vu.
Bien sûr, il l'a reconnu. C'est juste que l'agence avait été briefée ou aurait pu être plus créative que ça. Et 15 jours après, mon entreprise était cédée à France Télécom.
Comme quoi?
Mais parce que à la fin du déjeuner, il m'a dit, mais vous n'êtes pas à vendre par hasard? Je lui dis non. Parce que je...
On est toujours à vendre, ça dépend un peu du prix.
C'était en 99, on avait une situation de leader sur cette micro-niche et voilà.
Guillaume Roquette.
Oui, donc une fois de plus, vous vendez l'entreprise vite. Est-ce que c'est parce que finalement, il n'y a pas deux métiers pour un entrepreneur? Il y a celui de créer des entreprises et celui ensuite de les développer sur la durée et que le deuxième vous ennuie et que donc en fait, vous avez aperçu que vous étiez doué pour le premier seulement?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a deux métiers, il y a celui de développer une entreprise et celui de créer, tout à
et
fait.
Et pourquoi ce n'est pas les mêmes qualités?
Je pense que pour créer... Je travaille depuis 8 ans avec Olivier Crèche, qui est mon associé, qui est l'opposé de moi. Et donc on le voit bien, c'est vraiment très très différent et on se respecte parfaitement. Moi j'ai tendance à avoir des idées en permanence, beaucoup trop, souvent. Et c'est plutôt de me canaliser, d'essayer de pas tout lancer en même temps et d'être très très concentré. Ce que j'ai appris notamment dans la période 2000, on y reviendra peut-être, où j'ai trop créé en même temps. Mais le métier de développer, donc je pense que je suis assez bon en présentation pour trouver des nouveaux clients, pour leur proposer des choses, pour créer en fait, pour innover. Et ensuite, il faut développer. Et c'est très très important aussi. Le créateur sans la personne qui innove et développe ne vaut pas grand-chose, entre guillemets. Il se plante en général. Et c'est effectivement deux rôles très différents. Alors, il ne m'ennuie pas le deuxième, le rôle de développer, mais je m'y sens beaucoup moins efficace dans le rôle de créateur. Et c'est pour ça que la solution que j'ai trouvée, c'est de céder l'entreprise quand elle arrive à un certain stade, ou alors d'essayer de la réinventer.
Très brièvement, vous nous dites que votre associé Olivier Crèche vous accompagne depuis 8 ans, mais quand vous vendez, il vous suit ou il est parti pour nouvelles aventures ou...
Il me suit assez souvent, oui.
Ouais.
Et là, il m'a suivi dans une entreprise.
Avec chaque fois la même répartition des rôles?
Ah oui, 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 oui. En général, avec exactement la même répartition des rôles. Ce qui est assez amusant, c'est que de société en société, justement, on se connaît de plus en plus. Et donc là, maintenant,
ça
on
marche
ne sait
de
même
mieux
pas.
En mieux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais une sorte de culpabilité, par exemple, par rapport au fait de ne pas toujours développer avec lui. Et maintenant, on est en totale symbiose.
On se retrouve après une pause pour terminer la découverte du parcours de Loïc Lemeur. À tout de suite.
Le 12-15, le rendez-vous des décideurs de l'économie et de la politique.
Patrick Ricard, Dominique de Villepin.
Vous les connaissez évidemment, mais vous allez mieux les connaître.
Le 12-15, avec Edwige Chevrillon.
Ils font l'actualité, ils sont tous là entre 12 et 15. Ils vous expliquent leurs décisions, leurs succès ou leurs dérapages en toute franchise.
Tous les jours, jusqu'à 15h, les leaders du business en live.
C'est parfois un peu chaud, souvent musclé, toujours instructif. Et je pose très poliment les questions les plus vaches.
Midi 15h sur BFM, le 12-15, avec Edwige Chevrillon.
Bonjour, je suis Loïc Péquignot, PDG de Riscader 6. La semaine dernière à l'aéroport, mon ordinateur portable a été volé. En 3 clics, j'ai pu récupérer tous mes fichiers. Comment ? Avec Backupia, développé par Riscader 6, je sauvegarde par Internet automatiquement mes données sensibles. Pour vous comme pour nos 15 000 clients, mieux vaut prévenir que guérir. Pour tester la solution de sauvegarde du leader européen de la sécurité informatique, contactez-nous sur rader6.com ou appelez-nous au 08 91 67 00 04.
22 centimes la minute.
BFM, partout, à tout moment. Chez vous, en FM, BFM à Marseille,
93.8,
Toulouse,
107.2.
En voyage, à l'hôtel, BFM sur CanalSat et TPS. BFM au bureau, sur votre ordinateur, sur Internet, radiobfm.com. Dans votre voiture, sur votre autoradio, BFM à Paris,
96.4,
Bordeaux,
107.3.
En week-end, BFM sur Nous et Numérical. Tous les moyens sont bons pour écouter BFM. BFM, la radio de l'économie.
Et on fait un point sur les marchés avec vous, Gaëtane Mélin.
Bonjour Philippe et bonjour à tous. Et la semaine commence bien la Bourse de Paris puisque le CAC 40 est en hausse de 0,2% à 4492,98 avec parmi les plus fortes hausses aujourd'hui eh bien un poids lourd de la cote Total, hein, Total qui récupère encore 2,7% à 210 € avec un prix du baril de pétrole qui s'est un peu repris. Le Brent se négociant à Londres à $59,35 le baril. Et puis on notera eh bien évidemment hein, que les salariés de la raffinerie de de leur chez Gonfreville ont voté la poursuite de la grève jusqu'à aujourd'hui, un mouvement que les syndicats menacent de prolonger à d'autres sites. Très belle performance également pour Altran Technologies qui renoue avec les bénéfices. Le titre est actuellement en hausse de 13,8% à 9,98 €. Publicis, lui, est en hausse également de 2,3% à 26,61 €. Les marchés saluent tout bonnement la décision du groupe de renoncer à lancer une offre sur le britannique Aegis, alors que son rival WPP, associé au fonds Hellman Friedman, semble bien placé pour l'emporter. Havas est inchangé à 4,11 €. Et puis signalons que Bolloré est le premier actionnaire d'Havas avec 20% du capital. Bolloré qui est encore monté dans le capital du groupe britannique Aegis à 17,38%. Bolloré progresse à l'instant de 2,6% à 428 €. Valourec, belle hausse également, plus 4,4% à 398,70 €. Alors QBS a entamé sa couverture sur le titre à achat avec un objectif de cours de 520 €.
L'essentiel de l'info, Grégoire Favet.
L'abattage de volailles touche à sa fin en Roumanie où la grippe aviaire a été détectée. On sait maintenant que le virus y est présent sous sa forme létale comme en Turquie et en Asie. Un deuxième foyer a pour l'instant été circonscrit. Les responsables européens ont par ailleurs prévu de se réunir à ce sujet demain et jeudi. 8 jours après le séisme en Asie du Sud, nouveau bilan toujours provisoire avec plus de 54 000 morts et 3 300 000 sans-abri. Les vols de secours en direction du Cachemire ont pu reprendre ce matin après les fortes pluies du week-end. Et puis en Turquie, un tremblement de terre de magnitude 6 a été ressenti. Il n'y a pas de victimes selon le gouverneur de la province d'Izmir ce matin. Chamil Basayev revendique l'attaque menée la semaine dernière contre les forces russes de la ville de Nalchik. Le chef radical tchétchène assure avoir dirigé les opérations. Les combats dans cette localité du Caucase se sont soldés par la mort d'au moins une centaine d'hommes. Pas de résultat du référendum sur la constitution en Irak avant 3 jours. Le dépouillement se poursuit après le vote de samedi. 61% des électeurs y ont participé. Condoleezza Rice estime probable la victoire du oui. Début de polémique au Japon après la visite ce matin du Premier ministre Koizumi dans le sanctuaire patriotique de Yasukuni au lieu du nationalisme nippon. La Chine et la Corée du Sud ont immédiatement fait part de leur colère et de leur déception. 14e jour de grève dans les transports en commun marseillais. Les trafics des bus et métros sont toujours très fortement perturbés ce matin. Les syndicats protestent contre un éventuel début de privatisation de la régie municipale. Et puis la confrontation entre Paris et Marseille a tourné à l'avantage de l'OM hier soir au Stade de Drôme. 1-0 score final. Les Parisiens perdent du terrain face à Lyon au classement et figurent désormais à 7 points du leader ex aequo avec les Bordelais.
BFM, il est pile 10h30. Et on poursuit, Grégoire, avec l'actualité économique.
Et le coup d'envoi du débat budgétaire, ce sera demain à l'Assemblée nationale. Les députés entament l'étude du projet de loi de finances 2006 avec les recettes, des recettes en baisse d'1 milliard d'euros. Du coup, les députés UMP mettent la pression et réclament plus de rigueur. Une vingtaine d'amendements doit être examinés, dont un qui prévoit une exonération à 75% des actions des entreprises détenues par les dirigeants et les salariés soumis à l'ISF. Le nouveau gouvernement allemand se dessine peu à peu sous la direction d'Angela Merkel et les ministres commencent à prendre leur marque. Pierre Steinbrück, un proche de Gerhard Schröder, futur ministre des Finances, déclare que son objectif premier est d'assainir les finances de l'État et de respecter les critères du pacte de stabilité en 2007. Pour Alain Lamassoure, eurodéputé UMP au Parti Populaire Européen, la coalition SPD-CDU ne devrait pas être un frein aux réformes.
À la différence de la situation française, les deux grands partis allemands sont d'accord pour achever la modernisation de l'économie allemande, du système de protection sociale allemand et de l'État allemand, y compris dans sa dimension fédérale. Et les démarches courageuses que Schröder avait engagées avaient eu le soutien, en partie, des chrétiens démocrates dont il avait besoin pour faire passer ses réformes devant la Chambre haute du Bundesrat. J'espère que le nouveau gouvernement pourra poursuivre et amplifier ce mouvement de réforme.
Alain Lamassoure, eurodéputé UMP, au téléphone de Jean-Rémy Baudot. Romano Prodi sera le candidat de la gauche italienne pour les élections législatives de mai 2006. L'ancien président de la Commission européenne a remporté une primaire historique en Europe avec plus de 70% des suffrages. Plus de 3 millions de militants et sympathisants de gauche se sont exprimés par ce vote. Publicis quitte la course au rachat d'Edgis. C'est son PDG Maurice Lévy qui l'annonce ce matin dans la tribune, précisant qu'il ne payera jamais plus de 140 pence par action pour mettre la main sur le groupe britannique de marketing. Son rival WPP reste donc seul en lice. De son côté, Vincent Bolloré augmente encore sa participation au capital des G's et détient désormais près de 18% de participation. Les résultats de Philips, le géant européen de l'électronique, enregistre une hausse de 22% de son bénéfice net au troisième trimestre. Le PDG estime que le groupe est sur la bonne voie pour réaliser ses objectifs financiers cette année. Enfin, la prochaine sortie chinoise dans l'espace, elle aura lieu en 2007. C'est ce qu'indique aujourd'hui l'un des responsables du programme spatial Shenzhou. Le vaisseau Shenzhou 6 et ses deux taïkonautes sont revenus sur Terre ce matin après une mission de 5 jours réalisée avec succès. 10h32 sur BFM. Dans un instant, vous retrouvez Philippe Bloch, les grands débats du lundi et tous ses invités.
Les grands débats du lundi, Philippe Bloch.
Bonjour à ceux de nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre et à qui d'ailleurs je rappelle que s'ils ont raté le début du parcours de Loïc Lemaire, qu'ils peuvent se connecter sur Internet. On est sur une émission quasiment Internet toute la matinée avec notre invité de la semaine. Donc vous pouvez vous connecter sur radiobfm.com et suivre l'émission quelques heures plus tard dans Archive, la rubrique Archive. Loïc Lemaire, on était en l'an 2000, époque où effectivement vous nous disiez que vous commenciez à faire peut-être beaucoup de choses en même temps et pour autant vous créez à nouveau une nouvelle entreprise. Donc après B2L, rapidside.fr, vous créez Tekora. Tekora, c'était quoi ?
Tekora, c'était une sorte de fusion entre mes deux premières expériences et mes deux frustrations. Je voulais en fait faire ce que je faisais avec B2L, c'est-à-dire des sites de grande qualité, et ce que je faisais avec RapidSight pour les PME. Et donc j'ai eu une idée qui était d'essayer d'industrialiser un petit peu tout ça.
Et alors ça a marché cette fois-ci ou pas ?
Pas très bien, non.
Pas très bien ?
Non, pas très bien. Et c'est probablement l'expérience dans laquelle j'ai le plus appris justement. C'est-à-dire que au business plan, ce qu'on voulait, c'était faire en sorte que tout. Je suis parti là aussi d'une frustration personnelle un peu trop importante, probablement. Une des erreurs, c'est de m'être mis justement dans la cible de ma propre entreprise ou de m'être pris pour cible. Quand vous partez dans un hôtel, est-ce que vous n'allez pas sur le web chercher le site web de l'hôtel pour regarder les chambres, bon. Et donc j'ai eu une espèce d'idée, une espèce de vision, si on peut dire, c'est de me dire toutes les PME vont avoir un site. Toutes. Mm-hmm. C'est impossible autrement.
Ce qui était une vraie vision. Enfin, c'était.
Oui. Et j'avais au business plan 5000 la première année, j'en ai eu 400 je crois. Et donc ça a été la vraie erreur.
D'entreprise cliente.
Oui, d'entreprise c'était cliente, trop tôt, donc d'entreprise qui voulait faire un site un peu facile, pas cher. Hein. C'était l'idée de quelques centaines d'euros le prix, au lieu de quelques milliers ou dizaines de milliers. Et en fait j'étais trop tôt sur le marché, ce qui a été une grande leçon pour moi.
On dit toujours qu'une bonne idée trop tôt n'est pas une bonne idée. Guillaume Roquette.
Oui, Loïc Lemaire, vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Enfin, c'est pas la première fois, d'ailleurs, depuis le début de l'émission.
C'est gentil. Mais
vous dites, une de mes erreurs.
Il est sympa, Guillaume.
Une de mes erreurs, c'est de m'être mis dans la cible. Je voudrais qu'on revienne une seconde là-dessus parce que c'est très fréquent chez un entrepreneur qui a une idée. En fait, il va créer son entreprise en projetant sa propre envie ou son propre besoin, alors que parfois il se plante. Expliquez-nous comment est-ce qu'on peut se planter comme ça.
Moi, je suis dingue du web et donc je sais que si je me prends trop pour cible ou si j'analyse mon besoin à moi et que je le projette sur le marché, j'ai peut-être raison sur le fait que ça va atteindre les masses, mais ça peut prendre 5, 6 ans, 10 ans. Donc l'erreur, c'est de surtout pas prendre son propre cas comme le modèle. Et de là à faire des études de marché, je suis pas certain que... Moi, j'en ai jamais fait. Mais... il faut surtout pas penser qu'on est dans la cible, de même que pour les pubs. Quand vous faites une pub, si vous vous dites ça me plaît ou ça me plaît pas, ça a aucun intérêt, parce qu'en général, vous n'êtes jamais dans la cible de votre pub.
Donc quand on dit on monte un business pour se faire plaisir, il faut faire attention, c'est pas forcément suffisant pour réussir.
Ça, c'est une catastrophe, oui. Ça, c'est
mais Guillaume, est-ce que vous faites à l'entreprise un journal que vous aimeriez lire vous-même ? Pardonnez-moi, vous n'êtes pas l'invité de la semaine, mais ça m'intéresse.
Oui, mais effectivement, je fais toujours attention d'essayer de pondérer, c'est-à-dire que je fais d'abord ça parce que si on se fait pas plaisir, on fait rien. Mais en même temps, j'essaie de voir le plus souvent possible des lecteurs pour éviter de faire un journal nombriliste. Et donc, quand on pense à une idée de sujet, je ferme les yeux et j'imagine le lecteur et je me dis est-ce qu'il a envie de lire ou pas.
Donc Loïc Lemaire, vous dites que vous êtes un peu déçu là par cette expérience, qu'en même temps vous y apprenez beaucoup. On apprend souvent plus de ses échecs que de ses succès. Pour autant, c'est pas un flop total parce que là aussi... vous vendez ou non cette entreprise Tekora ? J'ai un peu perdu le fil de toutes vos reventes.
J'ai levé 6 millions d'euros sur cette entreprise en 2000 ou de fin 2000 de mémoire.
Oui.
Et c'est la première fois aussi que je lève des fonds. Et j'ai levé avec 4 investisseurs. Donc quand je dis que c'est l'entreprise...
Qui vous a beaucoup appris, j'imagine.
Comme Société Générale ou ABN AMRO, dans laquelle j'ai appris le plus, c'est que justement ça n'a pas été le succès escompté, ni par mes investisseurs, ni par moi-même. Mais j'ai appris à gérer un board avec 4 investisseurs, ce qui n'est pas du tout négligeable.
Pas facile, des gros en plus,
oui,
des institutionnels.
J'ai appris à gérer le fait que personne n'était satisfait par les résultats. Quand vous avez 5000 sites de business plan.
J'ai vécu ça, c'est très compliqué.
J'imagine, Philippe. Et je pense que c'est là que j'ai le plus appris. Effectivement, on a cédé l'entreprise parce que nous avons été extrêmement vigilants avec les 6 millions d'euros. C'est-à-dire que 2 ans après, il en restait environ 4. Et donc, j'ai essayé de très bien gérer ses fonds. Quand vous avez 4 millions d'euros en banque, c'est toujours facile de céder l'entreprise. Mais là aussi, où j'ai appris, c'est qu'un investisseur a besoin de sortir. Mmh. Et il a besoin de sortir vite, et même plus vite que ce qui est écrit dans le contrat. Et quand l'entreprise a eu des signes donc de succès pas assez rapide, j'ai eu une certaine pression de ces investisseurs pour qu'on sorte tous. Mmh. Alors qu'avec 4 millions d'euros, vous comprenez bien, quand vous réduisez la toile, vous êtes une dizaine de personnes à 4 millions d'euros, moi je pouvais tenir 10 ans.
Bien sûr.
Et transformer l'entreprise, éventuellement la transformer en entreprise de blog, par exemple. Mmh. Mais là, je crois qu'on s'est mis d'accord avec mes investisseurs, je ne voulais pas aller contre eux, c'était une harmonie que je souhaitais avec mon board, pour que l'on cède l'entreprise. Et quand vous avez 4 millions d'euros en banque, c'est facile de céder une entreprise. Donc, mais c'est une espèce de frustration là aussi.
Donc là, vous repartez à San Francisco, une fois de plus, un peu plus frustré que les dernières fois, et vous trouvez l'idée du blog. Comment ça se passe? Parce qu'on va venir maintenant à la création de YouBlog et la suite, c'est-à-dire en fait l'intégration dans Six Apart. Qu'est-ce qui s'est passé donc à partir de 2002?
Mais disons que j'ai découvert le blog, je ne l'ai pas découvert. Le blog a presque 10 ans. Hein. Mmh. C'est quelque chose qui existe depuis...
Aux États-Unis?
Non, dans le monde. C'est-à-dire que si vous pouvez qualifier le blog par, en fait, finalement, un journal sur le web où vous écrivez, peu importe comment vous écrivez. Ce qui est nouveau, c'est les technos.
D'accord.
Donc, c'est très, très simple. Alors, je l'ai découvert parce que j'ai eu le sentiment de voir en vrai, devant moi, sous mes yeux, ce que j'avais imaginé, mon rêve du web depuis 8 ou 10 ans. Je l'ai vu.
Mais là, vous l'avez vu où? En Californie?
Alors, je l'ai vu avec... Non, je l'ai... j'ai vu en Suisse.
En jouant à la pétanque.
non, je l'ai vu avec un ami japonais qui s'appelle Joito. Excusez-moi, c'est un peu. Mais
c'est sympa, attendez, c'est la vraie vie.
J'étais dans un séminaire du World Economic Forum, pour ne pas le citer.
Oui.
Les réseaux sont très importants, on le disait tout à l'heure, les conférences. Et j'étais avec mon ami japonais. Et il y a 3-4 ans, il était en train de bloguer une conférence. Avec un musicien, avec un musicien complètement incroyable qui nous expliquait les rapports entre la musique classique et les affaires.
Absolument.
Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Et Joey a fait une note sur son blog en disant, voilà, j'écoute telle personne, il parle de ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et pendant la conférence, il a reçu, je sais pas, 40 commentaires.
Donc là aussi du Wi-Fi qui envoie tout ça immédiatement, et boum, il reçoit les commentaires immédiats.
Mais dans les 2 minutes. Et donc je me suis dit, attends, tu peux m'expliquer ce qui se passe là sur ton écran? Et je découvrais le blog, c'était 2002-2003. Et j'ai j'ai proposé à Joey qu'on passe une soirée ensemble. On a passé la nuit ensemble, alors pas allongé mais devant un écran. Et j'ai décortiqué avec lui tout le phénomène blog. Le lendemain, je crée mon entreprise.
Et lui, il avait déjà fait ça au Japon?
Non, il blogue depuis 2-3 ans plus que moi, et il était en train de lancer...
Et là, vous avez, parce que vous dites que la technologie est la vraie révolution du blog, le blog existe depuis longtemps, cette technologie, comment l'avez-vous acquise ou développée?
Alors, sur le web, moi j'ai un impératif de vitesse. C'est-à-dire que quand vous avez décidé, donc là j'avais décidé, en une heure en fait.
Donc la nuit, lendemain matin, mal dormi, mais vous y allez.
Oui, en une heure, j'avais décidé que j'allais créer, que j'avais trouvé ma prochaine entreprise et que j'allais me jeter corps et âme dans ce sujet-là pendant 3-4 ans, le cycle que j'ai. Et effectivement, là, il faut aller très très vite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit tour du marché. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un site qui s'appelait UBlog. Et j'avais l'option entre tout recréer moi-même, donc recruter des ingénieurs et le faire, ou racheter un petit site. Donc UBlog, en fait, je l'ai racheté. C'est un site qui existait déjà avec une personne qui...
Qui avait vu le truc aussi, mais qui avait la technologie, alors.
Qui est un ingénieur qui l'avait vu et qui mais le développait pas suffisamment comme entreprise, et il était très heureux de toucher un petit chèque pour ça. Et donc j'ai racheté UBlog qui m'a permis de lancer l'entreprise immédiatement.
Guillaume Roquette.
Oui, Loïc Lemaire, tout ce que vous nous racontez, ça ferait fuir n'importe quel investisseur normalement constitué, parce qu'en fait, vous êtes sans arrêt sur les réseaux, avoir des nouvelles idées, vous passez la nuit avec votre copain, en une heure vous décidez de créer la boîte. Alors on pourrait croire que ce type-là est un peu fêlé, mais ça fait là quand même la quatrième fois que vous créez votre entreprise et que ça marche, exactement. Alors qu'en général on réussit une fois, deux fois, mais pas plus. Alors je vous demande pas de nous dire pourquoi vous êtes plus malin que les autres, mais vous êtes quand même un cas dans la sphère Internet. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez comme ça à finalement avoir autant de bonnes idées ou avoir du pif de façon aussi récurrente?
Mais j'en ai aucune idée.
C'est la pétanque, je te dis.
Alors, c'est la pétanque. Non, je pense que ça vient du fait d'être collé au marché. Pour être collé au marché, il faut être dans toutes les... Comment dire? Rencontrer un maximum de personnes, rencontrer les visionnaires, être au contact de ceux-là et sentir ce qui passe, sentir ce qui évolue. Donc, dès que quelque chose devient... Par exemple, les blogs, on en a tellement parlé que ça va devenir dans un cycle où ça va devenir grand public, c'est en train. Mais moi, je suis déjà en train de m'intéresser au podcasting et je ne parle quasiment que de ça.
C'est le cycle de 3 ans, le prochain cycle, c'était ma question.
Non.
C'est le podcasting?
Non, là, c'est dans l'entreprise elle-même. Mais
d'accord.
En fait, c'est un peu comme quand vous pilotez un avion. Il faut que vous soyez devant, les pilotes disent, il faut que vous soyez devant le nez de l'avion. Il ne faut pas que vous soyez derrière, parce que si vous n'êtes pas là, vous ratez la piste.
Mais pardon, je vais vous parler comme un vieux con, mais quand est-ce que vous avez le temps de bosser?
Mais je bosse pas, je m'amuse, je bosse. Alors la différence entre mon temps professionnel ou perçu de manière professionnelle et mon temps d'amusement est totalement complètement virtuel, puisque le soir
tout est poreux, les frontières sont poreuses.
Mais oui, le week-end je suis sur mon site ou sur mon blog où je lis énormément, 3 ou 4 heures par jour jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Est-ce que c'est du travail ou pas? Non, c'est plutôt pour apprendre, mais en réalité c'est aussi du travail. C'est pour essayer de comprendre ce qui se passe en permanence. Vous ne pouvez pas entreprendre et réussir, à mon avis, sur le web sans passer 2 ou 3 heures par jour à comprendre ce qui se passe, parce que ça change tout le temps. C'est la seule manière d'y arriver. Est-ce que c'est du travail ou pas? Évidemment, c'est de la veille. Mais la veille, moi, je la fais plutôt entre 11h et 2h du matin.
Pas une dernière question, mais presque, parce qu'il nous reste à peu près 1 minute et 15 secondes de cette séquence et de la découverte de votre parcours Loïc Lemeur. Vous avez là encore une fois décidé de céder une partie de votre entreprise, donc Ublog, qui est devenu en fait Six Apart. Comment ça s'est décidé et comment vivez-vous aujourd'hui le fait de faire partie d'un groupe?
J'ai déjà créé 3 entreprises en France. J'avais envie d'avoir une expérience internationale. Si vous démarrez de zéro pour leader mondial à partir de la France où c'est difficile de lever des fonds, c'est quand même pas facile. Et donc je me suis dit, je vais voir sur le marché mondial quelle est la meilleure entreprise dans ce secteur. Elle s'appelle Six Apart à l'époque. Et c'est Ben et Mina Trott, les 2 fondateurs qui avaient 26 ans dans leur chambre à coucher. Et je me suis dit, est-ce que je vais lever des fonds à nouveau? J'ai déjà fait. Répandre l'entreprise en Europe, puis 3 ans trouver le leader et peut-être faire quelque chose avec lui. Ou est-ce que je vais directement voir la techno que je pense être leader? C'est ce que j'ai fait, je suis allé voir Ben et Mina à l'époque.
Là, vous avez été servi par votre parcours précédent, j'imagine.
Oui, ça m'a aidé. Je leur ai dit, écoutez, on va être concurrents, je vais aller plus vite que vous en Europe, parce que je suis européen, je connais le marché, les Américains font des erreurs. Quand ils se lancent, ils préfèrent plutôt racheter ou tuer que de lancer leur propre entreprise. Pourquoi on ne le fait pas ensemble tout de suite? Et donc, c'est l'idée d'avoir un tout petit morceau d'un gros gâteau, leader mondial, Six Apart. Aujourd'hui, on a 11 millions de blogs dans le monde.
Bravo, en tout cas, c'était le parcours de Loïc Lemeur. On va poursuivre avec lui le grand débat de la semaine consacré au blog, comment fabriquer un blog qui marche. Merci Loïc, merci Loïc Lemeur. Quant à nous, on se retrouve dans un instant.
Merci. Allô maître, il y a un huissier dans nos locaux. Il me demande de lui présenter les licences des logiciels qu'on utilise et nous ne sommes pas du tout à jour.
Ah bah je vous avais alerté, 1,5 million d'amende et 3 ans de prison. Sans compter mes honoraires.
BSA, ensemble, respectons l'œuvre logicielle. BSA.org/France.
Les BFM Awards sur radiobfm.com, c'est vous qui allez récompenser les champions du business et de l'entreprise. Les BFM Awards sur radiobfm.com, découvrez les nominés des 4 catégories. BFM Award Jeune Manager, BFM Award Entreprise Familiale, BFM Award Entreprise CAC 40 et Grand Prix BFM. Sur radiobfm.com, vous votez et vous décidez des 4 champions de l'année. Les BFM Awards, première cérémonie et lauréat le 14 novembre prochain. Les BFM Awards, avec vous, tous les talents du business et de l'entreprise. BFM, la radio de l'économie.
BFM, 10h45, on fait un point sur les marchés avec vous Gaëtan Mélin.
Et on est toujours en hausse à la Bourse de Paris, le CAC 40 qui progresse à l'instant de 0,3% à 4494,43 points, avec en tête des hausses sur le SRD Altran Technologies, plus 13,6% à 9,96 €. Schlumberger récupère 4,2% à 68,30 €. Valourec, bien orienté également, plus 4,2% à 398 €. Soitec est en hausse de 4,2% à 14,07 €. Technip progresse de 3,5% à 45,55 € et Total est actuellement en hausse de 2,9% à 210,40 €. Si l'on se penche à présent du côté des baisses, eh bien on retrouve Eiffage qui abandonne 2,2% à 70,40 €. La foncière financière participation, moins 2,1% à 189,60 €. Spire Communication replie de 1,6% à 158 €. Général de Santé chute à l'instant de 1,5% à 28,50 €. Et Rodia abandonne 1,2% à 1,71 €. Voilà, je vous rappelle donc à la Bourse de Paris. Eh bien, pour l'instant, le CAC 40 est en progression de 0,3% à 4,494,40 €. Tout de suite, vous retrouvez Philippe Bloch et ses invités pour la suite des grands débats du lundi.
Les grands débats du lundi, Philippe Bloch.
Comme chaque semaine à cette étape de l'émission, nous recevons sur BFM un jeune entrepreneur, j'allais dire 2 jeunes entrepreneurs, qui essaient de faire bouger les choses dans leur métier. Cette semaine, on a le plaisir d'accueillir Nicolas Serrault et Mehdi Benchekroun, qui sont cofondateurs de Presse Purée. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue sur BFM. Alors, on a décidé effectivement chaque semaine un petit peu de donner de la visibilité ou une chance à une entreprise de convaincre soit un investisseur, un partenaire, un banquier, des clients ou n'importe quelle personne dont ils peuvent avoir besoin. Avant de peut-être démarrer et de vous demander de présenter un peu ce qu'est Presse Purée, je vais peut-être vous demander de vous raconter en une minute, peut-être un peu de nous raconter vos parcours chacun. Je ne sais pas lequel des deux veut commencer, Nicolas ou Mehdi.
Bah, moi, je vais commencer. Donc, je m'appelle Nicolas.
Nicolas Serrault.
Donc, j'ai 28 ans, je suis originaire de la région bordelaise, dans la campagne. J'ai une formation à la base d'ingénieur en mécanique énergétique. J'ai travaillé 2 ans chez Peugeot.
Ah, et, c'est j'ai un point commun avec Loïc Lemaire. Premier client
c'est,
de son entreprise.
C'est bon pour les reconversions. Et donc, j'ai travaillé 2 ans là-bas et j'ai tout quitté par passion pour la cuisine pour monter ce concept-là de restauration rapide.
Mais une passion personnelle, parce que vous n'aviez jamais fait vos études dans ce secteur.
Effectivement, j'ai démarré donc à la campagne avec les repas en famille, la cuisine du marché.
Vous faisiez la cuisine, donc vous aimiez ça.
Non, j'ai la chance effectivement d'avoir de merveilleuses cuisinières dans ma famille qui m'ont donné le goût pour la cuisine et la gourmandise.
Alors, Mehdi Benchekroun, quel est votre parcours ?
Bonjour. Alors, moi, j'ai un parcours plus économique, on va dire. J'ai fait une maîtrise en gestion et un master dans les nouvelles technologies. Je suis passé par la com interactive, donc web agency.
Encore un point commun avec Loïc Lemaire qui est à côté de vous.
Toujours à la recherche de l'innovation, j'ai commencé à réfléchir à un concept qui est celui dont on va discuter aujourd'hui et où l'on s'est rencontré avec Nicolas, avec la même philosophie. Et j'ai décidé de me lancer à fond sur ce projet.
Donc le projet, c'est Presse Purée. Alors, lequel de vous deux nous raconte ce qu'est ce projet, qui n'en est plus un d'ailleurs, puisque ça va démarrer.
On va ouvrir d'un jour à l'autre. Là,
on est en pleine actualité.
On a un dernier point juridique à résoudre.
Alors allez-y, qu'est-ce que c'est que Presse Purée ?
Nicolas va nous expliquer.
Donc l'objectif, c'est de proposer un concept de restauration rapide, c'est-à-dire adapter à nos rythmes de vie. Qui remet au centre de notre alimentation de légumes sans tomber dans une niche, qu'elle soit bio ou végétarienne. Donc on va proposer effectivement un gros travail important sur les légumes et notamment une innovation principale sur le marché qui sont des plats chauds qu'on voit nulle part ailleurs. On a effectivement fait un gros travail sur le marché, on a regardé ce qui se passait et on a trouvé des produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et notamment des plats chauds qui s'inspirent d'un travail important sur les purées, les gratins de légumes, les légumes farcis, les cuissons wok à la plancha.
Mais il n'y a que des légumes.
Non, c'est à la fois c'est ni bio ni végétarien, donc on propose de la viande, du poisson. Donc un exemple de plat typique, c'est une purée de patates douces. Donc on monte tout par strates, une purée de patates douces avec au-dessus une compotée de poire au fenouil et un duo de poisson perche chaumont cuit à la papillote. Moi, et émietté.
Loïc Lemaire a déjà faim. Il n'est que 10h49.
Le tout servi dans une barquette à consommer sur place ou à emporter. Donc c'est un petit peu le parallèle avec les traiteurs asiatiques, mais version un peu plus traditionnelle. On revisite une cuisine familiale.
L'idée à retenir surtout, c'est cette notion de plat chaud en restauration rapide, avec une vraie notion de praticité. Et puis derrière aussi, à travers notre slogan qui est « L'heure du réveil culinaire a sonné », il y a une vraie volonté de notre part de vous faire redécouvrir des saveurs soit d'enfance ou des saveurs, j'allais dire entre guillemets, exotiques, moyen-orientales ou asiatiques.
Alors la cible, c'est quoi ? C'est les femmes des 8e arrondissement
de Paris ? 4 employés de bureau avec beaucoup de femmes. On aime les femmes, donc c'est pour ça. Non, je plaisante à moitié, mais... Donc cadres et employés de bureau principalement, donc on cible cette clientèle parce qu'on la connaît bien, parce qu'on est issu de ce milieu également.
Alors premier allez-y, oui.
Ce qu'on peut dire, c'est que à l'heure actuelle, la clientèle féminine est la clientèle la plus insatisfaite de la restauration commerciale en général.
Premier point de vente, où et quand et pourquoi, quel problème juridique devez-vous affronter?
Donc, premier point de vente, 17e arrondissement de Paris, du côté de Wagram, on n'en dira pas plus, et on a des petits soucis.
Il faut pour que les gens viennent, il faudrait quand même qu'on sache où c'est.
On n'a pas encore fait l'acte de cession parce qu'on a un problème juridique là-dessus sur la notion de renouvellement de bail. C'est un problème hautement stratégique, vous devez connaître.
Loïc Lemaire.
Mais vous n'avez pas peur de vous faire piquer votre idée en parlant comme ça à la radio? Parce que là vous n'avez pas un paquet de concurrents.
Écoutez, la concurrence est toujours la bienvenue, ça va nous permettre d'être encore plus performants demain et après-demain. Donc au contraire, je pense que c'est un point positif pour nous.
Je vous félicite, je pense que Loïc Lemaire,
Loïc Lemaire, il entreprend en une heure, donc peut-être que dans une heure, il ouvre un Presse-Purée.
Non, Philippe, n'exagérons rien.
Guillaume Roquette.
Oui, tout le monde pose des questions, donc moi aussi, mais à Philippe Bloch cette fois-ci.
Ah non.
Au cofondateur de Columbus Café, vous en pensez quoi de ce concept, Philippe?
J'en pense que ils sont forcément sur un bon secteur ou un bon segment qui est l'alimentation équilibré. Tout le monde l'attend. Personne ne l'a vraiment trouvé, en tout cas dans l'alimentation rapide. Mais je dis aussi attention à la très forte segmentation pour ne pas tomber dans un marché de niche. Peut-être presse purée est-il un terme notamment qui enferme dans un seul secteur. Donc c'est pour ça que je vous posais la question spontanée de savoir s'il y avait d'autres aliments dans votre gamme. Et puis aussi, je reconnais bien dans ce métier formidable les difficultés de l'immobilier qui sont notamment une des premières des épreuves qu'ils sont en train de surmonter. Alors vous allez la surmonter quand cette épreuve? Parce que si l'immobilier est à ce point un problème, c'est pas pour demain.
Cet après-midi, on va prendre une décision finale cet après-midi pour essayer de résoudre cette solution, parce qu'on tient vraiment à ce local. Mais si on n'arrive pas à la négociation finale, ben on changera.
J'ai lu dans un papier récent sur vous que vous avez levé près de 400 000 euros, notamment par internet avec un blog, c'est ça? Vous avez beaucoup fait parler de vous. Alors, en amont, c'est intéressant.
Oui.
Loïc, rire.
Alors, le travail qu'on a fait depuis un an et demi sur ce projet, ça a été d'abord un travail de réseau, c'est-à-dire créer un réseau à la fois de compétences, mais aussi un réseau de financement. Et le blog nous a beaucoup servi pour justement montrer que notre projet était écouté, notre projet avait une certaine réputation. C'est grâce à ça qu'on l'a validé notamment. Et donc les 400 000 euros, pour revenir aux sous, on les a rassemblés à travers des réseaux d'investisseurs comme Club Investissor 92, comme Femme Business Angels, chez qui on a présenté notre projet, on l'a validé également.
D'accord.
Et qui nous ont donc permis de rassembler des investisseurs.
Donc Nicolas Sureau et Mehdi Benchikroun, avec cet argent, vous allez hopefully, comme on dit en anglais, ouvrir votre premier point de vente dans le 17e. Après, l'idée, c'est de développer en franchise, si ça marche.
Tout à fait. Le concept, c'est un développement de restaurant, avec d'abord un développement en succursale, sachant que la franchise, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, donc on est très méfiant, on regarde ce qui se passe autour de nous. Et l'objectif principal pour l'instant, c'est le développement succursale.
Guillaume Roquette.
Oui, dans votre métier, il y a le contenu de l'assiette, bien sûr, mais il y a aussi les fondamentaux de la restauration rapide, trouver les bons emplacements, les flux, avoir les bon nombre d'employés au bon moment pour qu'ils n'en attendent pas trop longtemps. Toute cette partie-là du métier, ce qui ne se voit pas, vous l'avez appris comment?
On l'a appris justement grâce à notre réseau, où on a pu rassembler des spécialistes de la restauration, des écoles hôtelières, des spécialistes du fonds de commerce, avec notamment un des fondateurs de Pomme de Pin qui nous a beaucoup aidé. On a aussi des coachs, parce que j'ai suivi personnellement un stage de formation dans la restauration, parce que je ne suis pas issu de ce domaine, qui nous a permis vraiment de comprendre les problématiques. Et bon, bien sûr, on n'est pas du métier, c'est ce qu'on nous a suffisamment rabâché.
Oui,
c'est pour
plus,
ça qu'on a mis deux fois plus d'efforts dans les différents domaines.
Guillaume évoquait le Columbus Café. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne se passe jamais comme prévu. C'est parfois mieux, parfois moins bien. Louis Clemeur a une question à vous poser.
Vous tenez combien de temps avec 400 000 euros et de combien avez-vous besoin auprès d'autres investisseurs, le cas échéant?
Les 400 000 euros, c'est pour monter le premier point de vente, donc dans le 17e. Ensuite, on fera un deuxième tour de table de moindre importance en année 2 pour ouvrir le deuxième et troisième point de vente.
Ah bah tiens, on va faire un petit exercice. Vous avez 30 secondes. Je suis investisseur pour me vendre presse purée en tant qu'investisseur. Vous êtes 30 secondes, top chrono.
Je vous donne rendez-vous dans un an. Et c'est vous qui viendrez nous voir pour investir dans notre société. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que 100%...
Vous investissez, Loïc?
Avec un pitch comme ça, non, recommencez.
Je le refais. 100%,
Loïc demande le pitch.
100% des investisseurs ont choisi Tigny après avoir mangé.
Ça va mieux, là?
C'est mieux, oui, c'est mieux.
Bon, c'est-à-dire, ils n'avaient que 30 secondes aussi. Donc c'est pas facile. Donc, pour l'instant, ça s'annonce mezzo, en fait, parce que vous avez quelques difficultés à surmonter, là.
On est sur les starting blocks.
Tout est au vert, parce que la négociation, ce qu'il faut dire sur ce fonds de commerce, c'est quand même très très avancé. On est d'accord avec le vendeur, mais il y a une tierce personne qui rentre en compte dans cette affaire-là. Donc c'est presque fait quand même.
Ok, on suivra l'aventure de Nicolas Sureau et Mehdi Benchikroun de Presse Purée. Quant à nous, on se retrouve dans un instant pour un grand débat consacré au blog. Comment créer un blog qui marche? À tout de suite.